C'est les Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquez. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du tas de apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Du tas de apéro.
Allez, Louis.
Allez, mon petit bonhomme.
Allez, bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce 16e magazine de l'Instant Sport, votre émission d'actualité sportive qui décrypte, donc bien entendu, les résultats sportifs lausériens, nationaux et internationaux. Salut Laurent, comment ça va ?
Salut, bonjour à tous, ça va très bien, merci.
Tu as passé un bon week-end ?
Oui, week-end sportif, avec deux victoires, j'ai porté chance au MGC handball, et puis un petit match de foot bien sympathique hier après-midi contre le Buisson.
Un match que tu as gagné ?
Oui.
Ouais, mais très bien.
Par KO.
Ouais.
KO.
Exactement.
Non, 5 à 2 contre et... nos amis du Buisson, sympathique et club du Buisson.
D'accord. Et un week-end qui s'est terminé par un petit film frisson hier soir.
Voilà, hier soir, j'ai zappé le foot. J'ai dit, oh, ça sera pas un match très intéressant. Du coup, petit film frisson, en effet, ouais.
T'as été inspiré.
Bien renseigné.
T'as été inspiré de dire que c'était pas un match intéressant.
Ouais, bon,
c'était... Moi, j'ai vu un match frisson hier aussi, ouais.
J'ai reçu un SMS à 9h06, juste après le premier but de Lucas Barrios. Et puis, j'en ai plus reçu après.
Est-ce que tu as envoyé le SMS de 22h45?
Non, j'ai pas osé.
Celui qui dit sorry, good game.
Je me suis dit, il devait être en pleine déprime.
Ouais, j'ai arrêté.
Pas dérangé.
Vers la mi-temps, je crois, j'ai arrêté. Salut Luc.
Bonjour Ludo, bonjour tout le monde.
Alors Luc, avec toi, ou plutôt sans toi, l'équipe garçon du BCM aurait perdu 79 à 36 et grâce à toi, l'équipe a perdu seulement 79 à 38.
Absolument.
Deux points d'écart.
C'est deux points qui font la différence.
Bravo Luc.
Oui, les deux points de la saison.
On en a parlé samedi matin, tu t'attendais à deux matchs difficiles entre les filles et les garçons et ça a été le cas.
Ça a été le cas, exactement. Pour diverses raisons, les filles parce que... Parce que j'avais un effectif qui était très très réduit, dont une qui est arrivée au milieu du premier quart-temps parce qu'elle bossait et qu'elle n'a pas pu se libérer avant.
Ah, c'est ballot ça.
Une qui est arrivée à 5 minutes avant le coup d'envoi et le coach qui est arrivé pensant être pile à l'heure pour le match puisque je suis arrivé à 19h et que le match avait déjà débuté depuis 2 minutes. Donc voilà, parfait.
Bon timing.
Ouais, bah j'étais bloqué au boulot aussi. Mmh. Donc du coup compliqué avec un effectif réduit puisqu'il y avait 7 filles. Et voilà, donc ça a été un match compliqué. Après, elles ont fait ce qu'elles pouvaient faire avec leurs moyens et l'état.
Mais c'était contre qui?
C'était contre Kono, l'équipe qui ouais. est
Kono.
Première ou deuxième.
Mais on va y revenir dessus. Ouais. On va y revenir. On va d'abord parler des garçons. Les garçons qui s'inclinent à domicile face à l'équipe de Littoral Camargue, 79 à 38. Mmh. Alors pour commencer, raconte-nous ce panier, Luc.
J'aimerais bien, alors je m'en souviens plus vraiment en fait.
C'est bien, t'as pas marqué.
Si, j'ai marqué, y a pas de souci, je m'en souviens. Tout le monde s'en souvient, tout le monde s'est arrêté d'ailleurs au moment où j'ai marqué.
Ouais, c'était là, Ola, il
paraît. C'est une sorte d'événement international, il paraît que. Même la NBA a fait une minute d'arrêt pour commenter.
T'étais sous le panier et paf.
Non, je crois que je sais plus. Je crois que je suis sous effectivement. Je suis ligne de fond. Non. Je suis ligne de fond. Je me retourne et je marque. Je crois que c'est à peu près ça. Après, je tente dans la foulée un deuxième tir qui échoue lamentablement. Enflammage total. C'est bon, on arrête. Voilà. Et pour conclure ma prestation, j'étais remplaçant, je suis rentré à peu près au milieu du premier quart-temps. J'ai réussi à faire trois fautes avant la fin du premier quart-temps. Mm-hmm. C'est quand même assez extraordinaire. Et j'ai pas fini le match puisque j'ai été exclu pour cinq fautes, dont la dernière à une minute de la fin parce que j'en avais marre.
T'as raison.
Sans raison, quoi.
Ouais, c'est une faute stupide en plus, la dernière. Donc,
voilà. Ouais, toutes les fautes sont stupides. Hein,
ouais, un peu. Ouais,
Pour ce match, vous avez intégré deux nouveaux joueurs.
Oui, deux nouveaux joueurs, même presque trois, parce qu'on en a un qui fait son retour au club cette saison et qui a fait son premier match là, qui est revenu depuis quelques semaines. Donc c'était presque trois nouveaux joueurs. Voilà, ça a été compliqué contre une équipe qui est venue à 6 joueurs, mais qui jouait très très bien. Et puis on a eu surtout un énorme trou d'air en deuxième mi-temps.
Ouais, 28-0. La 25e et la 35e minute, 28-0.
Ouais,
Mais c'est la différence. Ah non, c'est même pas la différence.
Non, bah non, il y a 40 points d'écart.
40 points, ouais.
Non, on est à moins de 13, on est à moins de 13 à la mi-temps. Et bah voilà, après, il y a une absence totale, complète. Il n'y a plus rien qui marchait, plus de place, plus de passes qui arrivaient, plus de mouvement, plus d'envie, bah plus rien.
Fait en classement, je vois que vous êtes pas complètement largué parce qu'il y a PTT Montpellier juste un point au-dessus.
Oui,
donc.
Alors c'est 2 points la victoire, 1 point la défaite. Mais ils ont 1 point de plus parce qu'ils nous ont gagné. Donc
du coup, il faudra les gagner au match.
Ouais, voilà, bah le retour est à la maison, donc bon.
C'est que le dernier qui est descendu.
Non, c'est normalement les deux derniers.
Ah, il y a 3 points d'Alès. Donc, il
faudra rattraper Alès.
Ouais, qui nous a battu à la maison aussi, donc.
mais après,
c'est dommage, c'est une équipe qui arrive à jouer, qui arrive par séquence à jouer super bien. Et qui fait la preuve, on est à moins de 13 à la mi-temps parce qu'on est vraiment pas loin et on fait des belles choses. Et puis après, bah il y a des absences terribles pendant un quart temps complet.
Ça doit être compliqué aussi d'intégrer deux joueurs sachant l'importance des dispositifs.
Bah d'autant qu'il y en a un des deux qui était meneur de jeu, donc c'est compliqué d'intégrer un nouveau meneur qui connaît pas nécessairement les joueurs et les systèmes. C'était pas évident, mais bon. Voilà, ça fait pas tout, hein, ça explique pas tout. Hein. Il y a un moment où, faut réussir à tenir tout un match, quoi, sans baisser les bras pendant 10 minutes et voilà, parce que il y a un moment, c'est quand tu reviens plus en défense, quand au bout d'un moment, tu as les mecs qui partent en contre-attaque et qu'il y a plus personne qui revient, que tout le monde regarde, c'est un peu frustrant, quoi.
Ça va venir, Luc. Ça va venir.
Oui, oui. Oh,
bon. Là, vous avez perdu contre Littoral Camargue.
Littoral Camargue, Aigues-Mortes.
Mais voilà, c'est ce que je comprenais pas dans le classement, c'est Aigues-Mortes.
Ouais, Littoral Camargue, Aigues-Mortes.
Ok.
Alors, voilà, on reçoit Moggio la semaine prochaine.
Moggio, le leader.
Le leader, ouais.
Aïe, aïe, aïe.
Ouais. Tout peut arriver.
Ouais, ouais. Mais en première phase, on a failli. Les leaders, c'était à Carcassonne. On a perdu de 2 points à la maison avec la dernière possession. Donc, match qu'on aurait pu gagner. Tout est possible avec cette équipe.
Ouais. Les filles recevaient donc Kono, l'équipe leader, et perdent 63-43. Donc tu nous l'as dit, c'était juste en effectif. Il te manquait plusieurs titulaires, c'est
ça ? Ouais, il m'en manquait 3.
3.
Il manquait, enfin, 3 joueuses, dont 2 titulaires.
Pour 5 joueurs, c'est
dont 2 filles, dont Aurélie, qui est capable de marquer 20-25 points par match.
Ma pivot,
et du coup en face il y avait une fille aussi qui devait faire pas loin de 1m90 et au moins autant de kilos, donc c'était compliqué. Elle nous a marqué vachement de points et
j'ai vu un problème de taille dans la raquette.
Ouais, un gros problème de taille. Bah après on fait avec les moyennes du bord. Mais non, c'est surtout l'entame de match qui a été compliqué, parce que je crois qu'on est à 10-2 à un moment ou quelque chose comme ça. On est à moins de 13 à la mi-temps, les filles sont à moins de 13 à la mi-temps. Donc,
comme les garçons.
Ouais, comme les garçons. Ouais, ça s'est fini après de la même manière finalement. C'est entre moins 20 d'un côté et moins 40 de l'autre. C'est dommage. Au complet, je pense qu'on aurait pu gagner. On aurait gagné.
C'était le dernier match de la.
C'est le dernier match phase aller, ouais.
Donc phase retour, il va falloir refaire carton plein parce que vous n'êtes pas loin au classement. Mende dernier 6 points. Saint-Christophe, les Alès 6 points également. Oui. Vergès 7 points. Montpellier 7 points. Donc en fait, vous êtes qu'à 1 point du 3e. Hein,
oui, c'est ça. D'ailleurs, les 2 prochains matchs, c'est Vergès ce samedi à Saint-Privat et Montpellier le 21 mars dans leur salle. Mais voilà, je pense que c'est 2 matchs qu'on doit gagner de toute façon.
Voilà.
On peut et qu'on doit gagner.
Qu'il faut gagner surtout.
Qu'il faut gagner. Après Uzès, ça risque d'être un peu plus compliqué. Saint-Christol à la maison, il faudra le gagner aussi et il restera le dernier match contre Conon.
Ok, ben c'est noté, on va suivre ça. Envolé, Mende perd à Paris 3-7-0 pour le compte de la deuxième journée des play-downs du championnat élite. Laurent.
Ouais, ben du coup, comme on allait parler du volet, je voulais faire un petit coucou à Patrick aussi, puisque Patrick n'est pas là aujourd'hui, s'il nous écoute.
Eh oui, je sais pas, il est en vacances, donc à mon avis, il est loin, il nous écoute pas, mais bon. Le Mans de volley Lozère était 6e avec 10 points. Paris était 4e avec 12 points. Donc c'était assez resserré. Un match important pour les deux équipes qui jouent le maintien. Et donc le MVL qui perd apparemment. Je ne sais pas si tu as eu des échos du match, Luc, mais il n'y avait rien à dire.
Non, pas plus que ça. Oui, effectivement, les Parisiens qui étaient plus forts,
Oui, c'est à l'extérieur, c'est la réserve.
À l'extérieur, la réserve de l'équipe professionnelle. Voilà, c'est dommage parce que ça aurait été bien pour les Mandois au moins d'accrocher un point, au moins les deux points du tie-break.
Le premier set était serré, et après ça.
Ouais, puis après, ça a déroulé, ouais.
À noter.
Je viens de recevoir un message de Patrick qui me dit je suis en pèlerinage au Stadium de Toulouse.
Voilà, très bien.
Comprenne qui pourra. Ouais.
Mais on en parlera dans la seconde partie d'émission, peut-être. à noter l'équipe réserve qui perd au tie-break au Cress 3-7 à 2 et les seniors filles qui gagnent 3-0 à Clermont-Lérault. Alors les seniors filles qui font un très beau championnat.
Oui.
Voilà, on avait reçu Amal.
Amal, ouais.
Pour ceux qui n'ont pas suivi les émissions, il y a quelques magazines.
Amal, leur coach.
Voilà, leur coach, et bravo à ces seniors filles qu'on continue à suivre. Rugby, défaite du RCML à Plage d'Orbe, 42 à 13. Pour Plage d'Orbe, 6 essais, 6 transformations. Et pour le RCML, un essai de pénalité, une transformation et deux pénalités. Cette rencontre comptait pour l'avant-dernière journée des matchs retour. C'était le dernier déplacement de la saison pour les seniors du RCML. Dernier déplacement, encore une défaite.
Ouais. Bon, c'était chez le leader aussi.
C'était chez le leader qui a 44 points. Fleury, 43. Sijan, 40. Conque 39, Servion 37, Bédarieux 37, Prat-Pic-Saint-Loup 36, Rive-d'Orbe 30 et Mende 15. De toute façon, voilà, c'est fini, on le savait depuis quelques semaines, on le dit. Voilà, mais en tout cas, bravo de continuer à se battre, à aller jouer.
Bah, ils ont dû se battre parce que déjà, planter un essai au premier, c'est déjà bien. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont été dans le camp adverse, je vois une transformation de pénalité. Donc c'est qu'ils ont quand même campé un petit peu chez l'adversaire.
Ouais.
Pour
avoir un essai de pénalité, il faut avoir de la présence quand même. Parce que
ils ont tenu un bon moment, mais bon, voilà, les meilleurs, c'est les leaders.
En plus, un leader qui a besoin de gagner, et je pense qu'il a besoin de prendre des points de bonus quand on voit le classement qui est très serré. Entre le premier et le troisième, il y a 4 points. Donc je pense que, effectivement, le leader n'a pas pris le match. Je pense qu'ils n'ont pas pris le match à la légère en plus.
Non, certainement pas. Grosse actualité footballistique, on commence bien sûr par Honor Languedoc, 17e journée, l'AFL qui écrase Poussin 5 buts à 0, but de Brassac à la 27e, un triplé de Gourma, 41e, 48e, 81e et un but des Samba à la 60e. Alors les locaux ont tenu jusqu'à la demi-heure et l'ouverture du score de Jérémy Brassac, alors qu'il poussait avant la pause, les Mandois ont fait le break par l'intermédiaire de Gourma sur une passe décisive du gardien Destinonka Malonga. Un grand dégagement sur Fadil. Les Poussanais encaissent un troisième but 3 minutes seulement après la reprise. À l'heure de jeu, la tâche prend une autre tournure avec le quatrième but mondois, signé son bail, l'exclusion d'El Kadiri pour Poussin. Puis un dernier but de Fadigol pour conclure le match. Donc voilà, on le voit avec le résumé.
Il n'y a pas eu
photo.
Photo, et bravo à l'équipe de Stéphane Sora. Qui continue
d'y croire.
Ouais,
mais bien sûr.
C'est en raison.
Je sais que Paulin a gagné 2-1.
Paulin a gagné 2-1 à Carcassonne et Narbonne 4-0 à Argelès.
Ils ont eu du mal après.
Un peu comme en Ligue 1, les premiers ont gagné.
Ouais, voilà, ouais.
Paulin, du rien pour rien, mais si ce n'est pour la confiance.
Ouais, pour la confiance. Mais Paulin a eu du mal.
Contre Carcassonne. Ils gagnent tous les matchs. Ouais, ils commencent à nous fatiguer.
Il marque en fin de match. Je crois qu'il marque vers la 81 ou 82e minute le deuxième but.
Au classement, Paulin 58, Narbonne 52. Mende 47 avec un match de moins toujours. Perpignan 43, donc on voit déjà ça se creuse avec le 4e, 5e, Latte 43 et Gemort 42. Ça commence à se dessiner.
Ouais, ouais, si l'AFL gagne son match en retard, ils auront 51 points.
Ouais, c'est ça.
Sera toujours 3e, mais.
Sera toujours 3e à la portée de fusil de Narbonne.
7 points de Paulin.
7 points de Paulin qui doivent venir. Bon, après.
7 points, tu peux en récupérer 4, il en reste 3.
Oui.
Narbonne et Paulin doivent s'affronter aussi, je crois.
Et après, même si Paulin est intouchable, la deuxième place, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer.
Oui, de toute façon, il faut
s'il y a repêchage,
pour finir le plus haut possible. possible.
Faut finir le plus haut possible.
Et puis jouer le jeu par rapport aux adversaires.
Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, on fait confiance à Stéphane et à ses garçons pour jouer jusqu'au bout sur ce coup-là. D'autant qu'ils ont plus que ça à jouer cette saison.
Et on a vu que Paulhan avait gagné 1-0, il me semble, contre Poussan, difficilement.
Ouais, difficilement, ouais. Voilà. C'est bien, c'est encourageant.
L'AFL a l'air d'être plus en forme que l'équipe de Paulhan. Alors Narbonne... Ouais.
Ce serait bien que Paulhan réussisse à en perdre un quand même. Ça permettrait un peu de relancer
mars,
tout le monde.
Avant le 9 mars, qu'ils en perdent déjà un premier. Ouais, ça serait bien.
Ouais, j'ai pas vu les matchs qui attendaient Paulhan, mais on sait contre qui ils jouent. L'AFL, on sait pas, on va se renseigner.
La semaine prochaine... Je sais pas, j'avoue.
Ils reçoivent, je sais. Là, ça y est, ils vont commencer à avoir les matchs à domicile.
Ouais, ils reçoivent, ouais, exactement.
Plusieurs matchs à domicile, ouais. Ok, la réserve de l'AFL s'incline à domicile face à Castelnau, 2-1, but pour l'AFL de Baudin à la 21e. Ça va pas mieux, même s'ils perdent que 2-1 face à Castelnau, qui est second du championnat avec 48 points. Apparemment, sur le match, rien à dire, il n'y avait pas une si grande classe d'écart entre le second et l'avant-dernier, Mende qui est 11e avec 28 points. T'as eu des échos, Laurent ?
Ouais, alors bon, j'ai entendu dire que l'équipe 2 n'a pas démérité, mais il y a eu quelques erreurs en début de match, puisque les deux buts ont été très rapides. Le premier à 5e, je crois, 5-6e minute, un coup franc, et le deuxième à bout de quelques secondes, un début de deuxième mi-temps. Donc bon, peut-être quelques petits problèmes de concentration, je ne sais pas. Toujours est-il que c'était dans l'entrejeu, c'était bon, jeu égal, mais toujours problème d'efficacité offensive avec très peu d'occasions à se mettre sous la dent. Et donc c'est sûr que quand tu marques pas beaucoup de buts, c'est difficile de gagner un match. Quoi.
Un super coup franc direct pour Castelnau au bout de 6 minutes. Hein.
Voilà. Ouais. Donc du coup là, l'équipe est classée 11e, mais avec un match de plus que le 12e Montpellier Atlas qui a 26. Le dixième est Nîmes Soleil Levant à 4 points d'avance sur nous avec X matchs de retard. Donc ça va être très compliqué de rattraper le dixième. Bon, on sait qu'il y a trois équipes qui vont descendre. Enfin, normalement, il devrait y avoir trois équipes qui descendent. Donc là, c'est pareil, on est mal barré. Mais il faut continuer à se battre, à finir le plus haut possible, si jamais, par le jeu.
Oui, pas dit que Nîmes Soleil Levant gagne tous ses matchs en retard aussi.
Non plus, puis pareil. Bon, si jamais, il faut jouer pour finir le plus haut possible.
Et t'as qu'à 5 points de Saint-Gilles, si la victoire c'est
4
points.
Oui, c'est ça.
T'as qu'à 5 points de Saint-Gilles et 5 points du Chaud, du 8e. Tout peut se jouer.
Après, donc, je sais pas si on avait, je me souviens plus si on avait parlé la semaine dernière, mais il y a eu un petit changement au niveau du staff.
On en a parlé la semaine dernière.
De la FL2, donc avec Christophe Loyer qui cette fois a rejoint le staff.
Voilà. Donc Christophe Loyer, c'est un joueur qui jouait il y a 2 ans en équipe 1.
Ouais, qui était même
qui avait fait partie de l'épopée, la fameuse épopée Coupe de France, et puis qui s'était malheureusement blessé au genou.
En plus de l'équipe.
Voilà, un élément important, mais un terrain qui s'était blessé 2 fois au genou, notamment la deuxième fois en finale Coupe d'Alu avec l'équipe 3, là, malheureusement.
Tu l'avais taclé
Non, parce que je jouais ensemble. Mais bon, tout peut arriver.
Tu peux tacler tes joueurs,
tout peut arriver. Mais bon, voilà, donc là, il a fini sa convalescence. A priori, il va pouvoir reprendre le ballon. Surtout, il vient donner un coup de main à Cédric Bonal pour coacher cette équipe qui en a bien besoin. Ouais.
Il risque de reprendre en DHR, Christophe.
Ah oui, oui, bien sûr.
Ouais, c'est bien.
Ah ben là, il n'y a plus le temps d'attendre.
En plus, c'est... Après, moi, j'ai regardé un peu quand on regarde la compo. C'est là où j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre, parce que quand on regarde la compo de cette équipe, il y a quand même des joueurs. Enfin voilà, j'ai vu qu'hier il y avait Johan Robert, Florent Baudin, Nicolas Andréau, Nico Brunel. Et ça fait, enfin, c'est une belle équipe sur le papier. Et en plus, il y a vraiment une équipe qui tient la route.
Ça manque pas de buteur.
Ça manque pas de buteur. Il y a des buteurs. Il y a Mohamed Adani qui est un bon finisseur. Mais si le ballon n'arrive pas dans la surface, on peut mettre JPP, que ça ne marchera pas non plus. Quoi.
Mais c'est vrai que c'est dommage, il manque pas grand-chose. Sur le papier, elle a de la gueule en plus, cette équipe, cette équipe de DHR.
Oui, ouais, c'est surprenant, mais bon, le niveau, il y a un bon niveau en DHR.
Oui, et puis des fois, aussi, quand tu es dans une mauvaise dynamique, bah, c'est compliqué de remonter la pente.
Oui, mais il faut se ressaisir. Hein. Comme on dit, on est à 5 points du 8e, c'est pas, rien n'est perdu. Hein. Autre DHR, mais en Auvergne, 12e journée, l'ENL n'a pas fait de détails face à Commentry, 5-0 comme l'AFL. But pour l'ENL, Bonnefoy 8e, 19e, Dossouk, BT 20e et 92e, et Julien, pas Laurent mais Guillaume à la 55e. En 20 minutes, les hommes de Christophe Richaud avaient pratiquement plié l'affaire avec un 3-0. Et c'est une bonne opération parce que l'ENL est première du classement avec 39 points devant Clermont 3, 36, Clermont tout court 33, Lambe 31, Arpajon 29. Donc voilà, l'ENL qui continue, ça marche en avant. Hein.
Ouais, je l'ai eu hier soir, Christophe Richaud, il était très très content de la performance de ses garçons. Son gardien un peu moins. Parce qu'il a rien à faire. Il a rien eu à faire. Et en rigolant, Christophe m'a dit, ouais, bon, il y a mon gardien qui râle un peu parce que ça fait quand même deux matchs qui concèdent très peu d'occasions.
Je pense que personne ne s'en plaindra.
C'était une boutade.
Oui, j'imagine.
Mais il était très
c'est
content.
C'est ce qui est le plus dur pour un gardien. Rester concentré quand son équipe se balade tout le match, quoi.
Après, je l'ai eu hier avec Christophe Richaud, il m'a dit qu'il se souvenait pas d'avoir vu une action de dangereuse de Commentry dans le match hier. Mmh. Et donc voilà, très content d'avoir fait la différence en 20 minutes. Et surtout que les garçons, que ces joueurs se soient pas du tout déconcentrés, parce que tu sais, dans ce genre de match, il suffit de pas grand chose des fois.
Ouais, je connais.
Il suffit de prendre un but, et là, apparemment, ils ont vraiment bien respecté ce qu'il leur a dit à la pause, c'est-à-dire de continuer comme ça.
Déjà 3-0 en 20 minutes.
Ouais, mais tu sais, il suffit que tu sois déconcentré, que tu prennes un but à la 48e, après, tu peux te compliquer la tâche. Un gros boulot, gros match collectif, gros boulot défensif. Donc il était très très content de la victoire et de la victoire et du contenu, ce qui leur permet de rester en tête avant de recevoir Saint-Pourçain la semaine prochaine s'ils reçoivent à nouveau. Alors, je sais pas du tout où ils sont classés, Saint-Pourçain. Je crois qu'ils
sont pas dans les 7 premiers
classement. Ouais. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que tout le monde a gagné aussi.
Je me demande si déjà l'équipe 3 de Clermont a le droit de monter.
Je sais pas du tout.
Si ils peuvent monter. Je pense, à une époque, il y a 3 saisons de ça. Il y avait donc dans la Ligue Auvergne, il y avait Cournon, leur équipe première jouait en CFA2, leur équipe 2 en DH et leur équipe 3 en DHR.
Ouais, je pense que t'as. Ouais,
d'accord.
Bah okay. Ouais, t'as le droit.
Ouais, je pense. Ouais,
mais il faut voir si Clermont 2 est pas en DH.
En non, t'as un CFA2.
Non, c'est CFA2. Moi, est-ce que Clermont 2 descend, je sais pas.
Ah, par si ils descendent, oui, c'est après.
Ah ouais,
c'est...
s'ils descendent à ce moment-là, ils peuvent pas monter.
Et si ma tante en avait.
Et ouais, c'est autre chose. En tout cas, c'est bien pour l'ENL. Hein, on voulait qu'il remonte de suite. Enfin, tout le monde espérait qu'il remonte.
Très, très bien.
C'est pas fait encore.
C'est pas fait, mais
c'est
bien.
C'est pas fait, mais.
Mais ça y ressemble. Ouais,
ça y ressemble parce que dans la manière aussi, parce que tu sens quand même qu'ils ont une grosse confiance et puis voilà, marquer 5 buts, ça fait 2 matchs qu'ils en encaissent points. C'est bien. Faut que ça dure.
La belle affaire pour Marvajol Sport après sa victoire contre l'US du Trèfle, 2-1, but d'Endur Papé à la 40e et de Diallo à la 75e. Marvajol qui remonte un peu au classement et Margue premier avec 41 points, Gemort la réserve d'Aigmort deuxième avec 39, Saint-Privat 37, 4e Marvajol 36, l'US du Trèfle 35, donc Marvajol qui passe cette équipe. 6e Langlade 34, 7e Rochefort, 8e Alès, voilà, on s'arrête là. Donc Marvejol avec 36 points, il y a 5 points du leader.
Ouais, et à combien de la relégation ?
À 3 points du 8e aussi. C'est un championnat très serré.
C'est terrible. Avec une demi-finale de Coupe Garloser à jouer.
D'ailleurs, le tirage encore.
Je crois que c'est mercredi le tirage.
D'accord.
Ouais,
okay. Il reste encore. Ouais.
Il reste Nîmes Olympique. Alors après,
la 2 de Nîmes Olympique.
Ouais, la 2 de Nîmes Olympique.
Une autre PHA.
Il y a ce match extraordinaire qui a été arrêté parce que. Entre Bagnol et entre Bagnol et chemin bas la Salien en fait qui s'arrêtait à la mi-temps parce que les
c'est chemin bas
parce que les joueurs de Bagnol s'étaient fait faire les poches et les vestiaires à la mi-temps, donc du coup ils avaient arrêté le match et il y avait un autre match qui avait été reporté, je crois, Ce qui fait que je crois qu'on connaissait...
Je sais plus, mais enfin, le grandissime favori est bien sûr l'équipe de CFA2 de Nîmes Olympique.
Effectivement, d'autant que la première étant à peu près quasiment sûre d'être sauvée, n'a plus grand-chose à perdre.
Tu crois qu'ils vont mettre des joueurs professionnels ?
Non. Non, mais...
Oh, ben, dans l'équipe 2 de Nîmes, il y en a la moitié qui sont... qui sont pros ou qui s'entraînent avec les pros.
Ça veut dire qu'ils vont peut-être pas mobiliser les jeunes aussi fort que s'ils avaient eu besoin de tout le monde un peu pour voilà. Bon, par contre, il y en a un qui était presque embêté de la qualification, c'était Atita Diompi que j'ai eu la semaine dernière. Là, c'est pareil. Non, mais qui était un peu partagé parce qu'effectivement, il était très ravi de la qualification, ravi d'avoir gagné le derby, évidemment. Très contente de la prestation de ses joueurs, mais inquiet parce qu'il a un groupe qui est très peu étoffé. On en a souvent parlé. Il a dû rechausser les crampons en plus cette saison. Et du coup, voilà, il dit c'est très bien, c'est super, c'est génial, c'est
ça lui fera qu'un match de plus dans les jambes. Il faut pas qu'il s'inquiète.
Je pense, il y a le match, mais il y a aussi peut-être le fait que qu'il ait un groupe jeune, que les joueurs aussi ça trotte un peu dans les têtes aussi les quelques
semaines. Visiblement, ce week-end,
ça leur a pas trotté dans la tête. Donc c'est plutôt bien. Voilà, moi c'était avant ce match contre l'US Utrecht, donc mais il était content et je pense que c'est
ça lui a fait un joli pied de nez contre son ancien club.
Et puis je pense que ça a donné une belle confiance aux jeunes Marvejolais aussi pour la suite du championnat d'aller taper la FL.
Certainement.
Ok, voilà pour le foot. On passe en balle, le National 3, 15e journée, une belle victoire du MGC 26-21 contre Cournon d'Auvergne. Donc ce samedi soir, c'est le MGC qui recevait, après une coupure de 3 semaines, l'équipe qui occupait la 5e place du classement, à savoir le Cournon Handball. Alors pour les Lozériens, ce match devait permettre de corriger le tir après la défaite d'un but face à Villeurbanne et se rapprocher un peu plus de leurs concurrents pour le maintien. Donc Laurent, tu t'es rendu au match, tu as encore porté chance, parle-nous de ce match.
Alors ce match est paradoxal, je veux dire... Une première mi-temps, j'ai jamais vu une première mi-temps aussi catastrophique du MGC cette année. 7-12 à la mi-temps, c'est-à-dire ils ont marqué que 7 buts en 30 minutes, qui est dérisoire au handball.
5 buts d'avance.
Avec à un moment donné, deux joueurs de Cournon qui prennent 2 minutes. Donc le MGC a plus de joueurs pendant 2 minutes, incapables de marquer un but. C'était la Bérésina dans les tribunes, c'était... C'était un peu la grise mine. Les tribunes qui étaient bien garnies, d'ailleurs. Il y avait beaucoup de monde à ce match. Et puis, je pense que Pascal Daudet, à la mi-temps, a dû un petit peu, à sa façon, remobiliser les troupes. Et puis, ça a été un tout autre visage en deuxième mi-temps, avec des garçons qui jouaient... Alors, j'ai repensé à ce que nous disait Pascal. C'était un contre, en fait. Beaucoup de contre, de la vivacité. Et c'était chouette, quoi, parce que... Parce qu'il y avait toujours du mouvement, il n'y avait pas de blabla comme on peut voir des fois, du ronronnement. Là, ça a envoyé parce qu'il fallait revenir. Et puis petit à petit, un but par-ci, un but par-là, quelques ratés adverses. Et puis l'équipe est revenue. Alors attends, je regarde mes notes parce que j'ai pris.
Qu'à un moment ils avaient 7 points de retard. Ils avaient 14-7 après les vestiaires.
Après les vestiaires.
En début de deuxième période. Alors j'ai noté les visiteurs qui inscrivent 2 buts consécutifs pour porter l'écart à 7 buts, 14-7.
17 partout à la 46e.
Ouais, a priori c'est vers la 40e qu'il y a eu le déclic.
Voilà, un petit déclic. Et puis 20-19 à la 51e. Bon alors, après, ça a été le craquage total de Cournon qui a baissé les bras. Alors, c'est inexplicable non plus, je sais pas. Mais enfin, toujours est-il, ça a fait le bonheur des supporters lozériens qui étaient en transe, les joueurs aussi.
Très joli but. Alors, du coup, Roche, apparemment, était très
voilà, alors du coup, j'ai noté 3 noms pour commencer. Alors, je recherche mes notes. Voilà, c'est Vivian Krept. Je ne connaissais pas spécialement. C'est un jeune que j'ai... qui n'était pas plus que ça ressorti du lot sur les précédents matchs. Mais alors là, il a claqué des buts d'anthologie, et ça a réveillé un peu tout le monde. Ensuite, c'est Raphaël Voringer qui a mis la patate aussi, puis qui a le don de soulever la foule aussi. Il harangue un peu tout le monde. Donc c'était sympa. Et puis alors bien évidemment le gardien habituellement remplaçant qui s'appelle Gaëtan Roche, c'est un jeune joueur
qui était gardien de la réserve l'année dernière.
Qui quand on le voit est toujours en train de rigoler, toujours un peu nonchalant, un peu ramollo quoi, je crois qu'on peut le dire. Mais alors là cette fois-ci c'était l'araignée quoi. Il a sorti il a écœuré les adversaires. Et donc Dragoš n'est pas rentré, alors je sais pas s'il était blessé ou pas. Ce petit jeune a joué tout le match et il a été fantastique, phénoménal. Tous ses coéquipiers l'ont bien évidemment félicité et remercié à la fin du match. Et donc voilà, alors je sais pas au classement si tu as le classement,
ouais,
Ludo.
Je vais te dire ça. Au classement, où est-ce qu'il est? Oui, parce qu'en même temps, Meilan qui est juste devant prend une rouste à Villeurbanne 42-28. Fontaine fait encore un match nul. Alors Fontaine fait encore des matchs nuls. Ouais. 32 partout contre Annecy, donc ça remonte petit à petit. On va partir de la fin, sachant que c'est les trois derniers qui descendent. Dernier Courpierre avec 19 points, Mende 11e avec 24 points, Meilan 10e avec 24 points, donc pareil. Et Fontaine, 9e avec 28 points. Cournon, 8e, 29. Bourgoin-Jallieu, 29, 7e. Donc au final, on est à 4 points du 9e hein, et 5 du 8e.
Ils étaient super contents, les joueurs. Je les ai vus après le match samedi soir. Ils étaient vraiment contents. Et Pascal Daudet en tête qui a dit qu'il était prêt à revenir à tout moment à l'émission. Hein, parce que depuis qu'il est passé, ça marche super bien. Donc
j'ai dit, tu reviens. C'est un peu comme le rugby.
C'est ça. Mais là, ça a marché. Donc du coup, Pascal, il a dit qu'il revenait quand s'il pouvait revenir toutes les semaines, il serait content.
Voilà. Par contre, évidemment, le prochain match, jusqu'à la fin de la saison, il faut plus rater des premières mi-temps comme ça, parce que des retours héroïques comme il y a eu samedi, ça se reproduit pas tous les week-ends non plus. Donc il faudra revoir les débuts de match.
Prochain match, derby. Le derby à Saint-Flour.
Saint-Flour qui est deuxième au classement, enfin premier ex aequo plutôt.
Ouais. Saint-Flour qui ne peut pas se permettre de perdre.
Sera obligé de jouer aussi. J'avais vu le match de Coupe de France, je crois que c'était Coupe de France ou c'était championnat, je ne sais plus. J'ai vu le match, match à Mende contre Saint-Flour, où c'était équilibré aussi entre les deux équipes. Il n'y avait pas eu
match nul ou quelque chose comme ça.
Il y avait eu match nul avec un penalty arrêté par le gardien de Saint-Flour à la dernière seconde. Donc MGC aurait pu gagner ce match. Ah ben c'était un championnat puisqu'il y avait eu match nul.
Oui.
Et donc il faut aller là-bas avec détermination. Et puis ça peut le faire.
C'est pas loin, c'est comme à la maison. Donc,
Oui, c'est ça. Puis, puis je pense qu'il y a moyen de prendre des points encore et de la confiance. Et,
c'est combien là? C'est 3 points par victoire Ça doit être ça, non?
Oui, je crois que c'est 3 points la victoire. Ouais. Vu le nombre de points de demande, je pense que c'est 3 points la victoire.
Ouais, mais c'est bien. Ça
je crois que c'est 3-1 en fait. Non, ici il y a des nuls. Je sais plus.
J'espère qu'on va pas regretter cette première partie de saison.
C'est évident que. Ce sera regrettable cette première partie de saison et cette démobilisation qu'il y avait eu, démotivation.
Ouais, c'est un peu
en tout cas, ils font leur taf là, c'est bien et on les applaudit. Bravo, bravo. Laurent, tu as des infos sur les filles?
Oui, donc les filles ont joué contre Narbonne ce dimanche à Mende et elles ont gagné 24-16. Donc elles sont toujours troisième au classement derrière les deux équipes du MUC. Le classement risque de rester inchangé jusqu'à la fin de la saison, a priori. D'après la joueuse capitaine que nous avons reçue, ça n'a pas été le match de la saison. Mais c'est pas grave, les points de la victoire sont là, donc c'est le principal. Ce week-end, si vous voulez aller les encourager, messieurs, il vous faudra descendre à Frontignan samedi après-midi. Voilà.
Le dernier match à Frontignan, j'y suis pas allé, on a fait forfait alors.
Non, mais il fera beau à Frontignan ce samedi.
Je peux pas aller
à la plage.
Je serais bien allé les voir à Mende, hein, c'est dommage.
Ouais.
Ah non, je peux pas.
Tiens, et puisqu'on parle du MGC, la réserve a gagné et les jeunes aussi, les 18 ans, garçons et filles nationaux, ont gagné.
Tout le monde a gagné, sauf l'équipe de moins de 15 garçons. Mais
qui a la bagnole sur 16, je crois. Non, c'est les moins de 11 qui a la bagnole.
Je sais plus. Mais je crois que les U19 sont toujours premiers en national. Donc,
ce qui est quand même pas mal.
C'est qui est super.
Exactement.
Ouais, bravo eux aussi. Allez, on fait une pause musicale avant de parler de l'actualité nationale.
Parce que j'ai Marie qui écoute, a priori, qui m'envoie un message. Il ne te fera pas te rendre à Frontignan C'est à Jacou.
Ah oui, merci.
Pas mieux.
Merci Marie pas de mieux, suivre non. cette émission ouais. parce que j'étais presque prêt à y aller, tu ah, vois, ouais. Frantignan. Tu m'avais donné envie avec la plage, tout
ouais,
ça.
Ouais, mais c'est ça, c'est la plage.
Jacou, c'est... J'aurais été bien bête au gymnase tout seul.
C'est pas... Ouais, j'aurais été un peu con, effectivement.
Ouais, c'est un peu con. Merci Marie, allez, on passe... on va écouter de la musique et après on revient. On parle de football de nouveau. Red Hot Chili Peppers, my friend, mes amis. Mes amis, justement, la Ligue 1 avec les résultats pour commencer. Toulouse 1, Marseille 6, Paris Saint-Germain 4, Lens 1. Il faut arrêter d'acheter du fromage comme ça, hein, sans déconner pour ces émissions.
C'est pas du fromage. Hein.
C'est, ouais, c'est une bombe atomique. Quoi. Quand
on a bombardé l'Irak pour moins que ça.
Ouais, c'est sûr. Rennes 1, Metz 0, Evian 1, Monaco 3, Reims 3, Nantes 1, Bastia 2, Nice 1, Saint-Étienne 2-0 contre Lorient, Guingamp perd à domicile 1-0 face à Lille et Montpellier. Et des défaits de justesse 5-1 face à Lyon, c'était le match d'hier soir. Au classement, donc Lyon en tête 57, il y a rien qui change en fait hein, en tête. Hein. Paris 56 deuxième, Marseille troisième 53, Monaco 47 avec un match de moins, Saint-Etienne 5, Bordeaux sixième, Montpellier 7, etc. Et au fond du classement, ça sent de plus en plus mauvais pour Lens et Metz qui reste bloqué à 22 points. Toulouse après sa déroute face à l'OM est 18e avec 29 points. Lorient, premier non relégable, 31 points. On va commencer par ce match de Toulouse. Luc, Toulouse catastrophique ou pas?
Pas catastrophique, j'ai envie de dire Toulouse à son niveau. Voilà, au niveau qui est le sien depuis ce début de saison, qui s'est créé des occasions, certaines immanquables et pourtant manquées. Je comprends pas cette équipe de Toulouse qui, sur le papier, est une belle équipe.
C'est surtout lié à l'efficacité offensive de l'OM, quoi.
Oui, mais ça fait un moment.
Alors après, cette voilà, fois dans la surface, un missile.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que Toulouse à son niveau et Marseille aussi, parce que moi j'ai trouvé. Je pense que Marseille a joué avec. Pour le coup, c'est vrai qu'on l'a critiqué ces dernières semaines, mais le coup de poker de Bielsa de maintenir sa confiance à Batshuayi, qui a été une véritable réussite. Ça l'a remis en confiance. Il fait un super match. Il marque deux beaux buts. Mmh.
Qu'est-ce qui vaut Laurent dans le jeu, cet attaquant belge?
C'est un jeune joueur de 20 ans, mais qui est physiquement balèze. Hein. Bon, il a un peu le même style de jeu que Gignac, finalement. Mmh. C'est une tour, un mec qui garde le ballon dos au but, qui arrive à remiser, qui repart. Bon, lui, sa caractéristique, c'est qu'il est toujours dans la surface. Il va pas se perdre à gauche ou à droite. Il
reste moins complet que Gignac,
ouais. Ouais, voilà. Mais je sais pas si c'est moins complet ou pas. Enfin, c'est un gars qui veut marquer des buts. Et quand tu veux marquer des buts, il te faut être dans la surface de vérité.
Il vient d'où, lui? Il a été prêté?
Standard de Liège. Ouais. Et j'ai 7 ou 8 millions, je crois.
Ah ouais, ok. Ouais,
c'est quand un même gros transfert. Ouais,
j'ai lu sur un journal, un quotidien sportif, que
Alloué
était très bon, contrairement à ce que dit Patrick chaque semaine.
Il a mis son premier but pro, bon, un but un peu de raccro, mais c'est un but. Ouais. Mais il a été bon dans les relances, jeu aérien aussi, donc il a bien suppléé la défense qui était new look, puisqu'il manquait trois défenseurs habituels. Puis finalement, ça s'est bien passé.
Ouais, ça s'est quand même vu qu'il manquait les défenseurs. Ils ont concédé quand même pas mal d'occasions.
Ils ont concédé quelques occasions.
Bon, c'est une équipe de Toulouse qui est incapable de mettre un ballon au fond. Enfin, ils en ont mis un, mais
Ben Yedder, et lui, il est remplaçant maintenant, alors que c'était le super attaquant du début.
Il a quasiment pas marqué de la saison.
Mmh. Ouais, petite saison.
Très petite saison. Ouais.
Et surtout Toulouse, là, le goal average, avec ses 6 buts, je l'ai pas devant les yeux, mais ils ont pris cher. Hein.
Non, mais c'est inquiétant, Toulouse. Je pense que c'est une équipe qui était pas préparée à jouer le maintien et.
Ils s'y attendaient pas.
Et puis je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Ces dernières années, le jeu de Toulouse a rarement été, même si c'est la critique qu'on peut faire de plusieurs clubs du championnat de France, a rarement été
flamboyant.
Bon, là, c'est compliqué.
On pourrait lancer un sondage. Est-ce que Montpellier sera le seul club de la super grande région, Midi-Pyrénées,
ça te plairait, ça,
Languedoc-Roussillon, en Ligue 1?
Ça y ressemble, à part si Nîmes Olympique remonte.
Ça me paraît un peu compliqué, mais...
Oh, quelques caisses de
Costières.
Ça peut aider. Hein.
Enfin, c'est du Costières, quand même. Hein.
Oui.
c'est pas du Romané Conti, c'est un peu plus compliqué.
Bon, Toulouse n'est pas largué non plus, puisqu'il y a Lorient qui est 2 points devant.
Toulouse n'est pas largué, mais je les sens pas sur une... C'est compliqué. Tu vois, je sens pas de...
Evian non plus. Hein. Evian, ils ont pris...
D'ailleurs,
ils ont perdu contre
ce match contre l'OM, on voyait qu'ils avaient... pas clairement la niaque.
Ouais,
la niaque d'un combat physique.
Et puis je suis désolé, mais t'as leur gardien Zachary Boucher, même s'il fait pas véritablement mauvais match, on peut pas dire qu'il soit quand même complètement décisif. Il fait pas de grands arrêts. Amada, c'est pas non plus le plus grand gardien de Ligue 1, et c'est un gardien assez inconstant.
Qui marque des buts des fois.
Ouais, qui en a mis un. Enfin, son boulot, c'est avant tout de les arrêter. Qu'il en marque, c'est bien. Mais Evian, par exemple, Evian est le genre d'équipe pour qui jouer un dernier match pour le maintien, ils ont l'habitude. Ça fait 3 ans qu'ils le font. Ils sont habitués à ça. Ouais, ils ont cette culture-là, ils ont presque pour eux, c'est plus compliqué de rester dans le ventre mou que.
Oui, ils ont des joueurs d'expérience aussi.
Tandis que Lorient et Toulouse, c'est vrai que Toulouse, c'est pas leur habitude.
Ils sont pas du tout programmés pour ça. Et alors, est-ce qu'ils auront le caractère pour et je sens pas, tu vois, je sens pas Casanova. J'ai pas senti dans ses propos, enfin voilà, une espèce de révolte de, je sais pas.
Nice, qui est 15e, lâchera pas non plus beaucoup de points fin de saison à domicile. Très bien le contexte niçois. Donc ouais, là, je crois que la troisième place synonyme de descente en Ligue 2 est promise à Toulouse et Lorient.
Ouais, je pense que pour Metz et Lens,
ou Lorient.
Metz et Lens, ça va être compliqué, surtout que
Là ils sont maintenant à combien, 8, 9 points déjà du premier non relégable. 9 points, ça fait beaucoup. Hein.
Alors c'est dommage pour Lens parce que c'est une équipe qui a beaucoup de qualité. Moi je trouve beaucoup de qualité. À qui il manque énormément d'expérience et notamment devant.
Bernard Lacombe, le conseiller de l'AS à l'OL, a annoncé cette semaine que Fekir avait pris sa décision de de jouer pour le maillot bleu pour l'équipe de France, apparemment. Et au vu du match d'hier, c'est une bonne chose.
C'est une bonne chose. Alors, sachant que visiblement, il l'avait un peu plus tôt dans la semaine appelé Christian Gourcuff, le sélectionneur algérien, pour lui dire qu'il avait opté pour l'Algérie. Alors, je ne sais pas qui dit vrai.
Toujours est-il qu'il a été préconvoqué par les deux clubs. Les deux équipes nationales étaient aussi préconvoquées avec l'Algérie. Donc c'est qu'un match amical, donc il pourra aller jouer.
Oui, sachant que lui a toujours dit, même s'il est sélectionné et qu'il joue ce match amical, ça ne l'empêchera pas de changer par la suite de sélection, puisqu'il n'y a que les matchs en compétition officielle qui comptent. Sachant que lui a dit que la première nation pour qui il serait sélectionné sera celle pour qui il jouera. Il ne changerait pas d'avis. En même temps, il a déjà changé d'avis deux fois dans la semaine dernière. Donc, voilà. Puisque je crois que c'était même, il était convoqué pour un stage, pour le stage de l'équipe d'Algérie.
Oui.
Plus que pré-convoqué d'ailleurs.
À certaines dates, avant un match, il faut qu'il y ait une liste, je crois, de 40, au moins 40 joueurs. Ouais.
Sont pré-convoqués, qui sont susceptibles.
Après,
il n'y
en a que 23 qui sont choisis.
Ouais, mais là, je crois que c'était même au-delà de la pré-convocation, c'était pour le stage.
Ça fait un peu star, ça, de dire je vais jouer en équipe nationale, tout ça.
Quand
t'as que 20 balais, que t'as fait 30 matchs en Ligue 1, même pas, peut-être. Certes, des bons matchs, des buts, mais moi, ça me gêne un peu, quoi. Je trouve. Ça fait un peu se la raconter, quoi.
Je sais, ouais, mais en même temps.
Et mettre un peu de pression sur le sélectionneur aussi.
Ouais, alors en même temps, je sais pas, parce que c'est compliqué, c'est des joueurs pour qui c'est compliqué. Enfin, moi je suis. On va pas lancer le débat, ce serait compliqué, mais moi je trouve que c'est cette règle-là, elle est pas bonne. Enfin, pour moi, elle est pas.
Bah, elle est quand même meilleure que celle du Hand. Hein. On en avait
Monde. Elle est complètement meilleure. Mais moi, je trouve qu'un joueur, dans n'importe quel sens que ce soit, qui peut changer de nationalité sportive comme
alors
ça.
Alors, t'as fait toutes tes classes chez les jeunes pour une nation.
C'est un cas de conscience.
C'est compliqué. Alors, je sais, je pense qu'il n'y a pas de. Alors, en même temps, c'est vrai qu'un jeune qui va faire toutes les catégories de jeunes à une équipe de France et qui finalement
ne jouera pas
en équipe nationale, le priver d'une sélection pour un autre pays africain, asiatique ou n'importe, c'est même européen, même c'est beaucoup plus rare. C'est dommage. Après, est-ce qu'il faut mettre des limites de temps, c'est-à-dire que si tu joues pas pendant tant de temps dans ton équipe nationale, je sais pas.
Oui, c'est compliqué.
C'est compliqué parce qu'après il y en a qui en jouent, il y a des naturalisations naturalisations un peu exotiques, il y a des joueurs qui est-ce que c'est pas aussi une course certains pays de sélectionner un joueur pour pas se le faire piquer par une autre nation, enfin, je sais pas.
Oui, mais c'est ça, c'est une course, tu as raison.
Ouais, dans la situation de Nabil Fekir, j'aimerais pas être dans sa situation parce que j'imagine qu'il a aussi une pression familiale de ses parents et de son entourage, une pression professionnelle parce que faut pas se leurrer. Si Jean-Michel Aulas et Bernard Lacombe annoncent que Fekir a choisi la France, c'est peut-être aussi parce qu'ils se disent que si Fekir choisit l'Algérie, dans 2 ans il y a une CAN en plein mois de février, janvier-février, ça veut dire qu'il va falloir faire les stages avec son équipe nationale d'Algérie qui va peut-être pas avoir les mêmes stages que l'équipe de France. Enfin, Il y a de la politique aussi là-dessus.
L'équipe de France qui fera pas la CAN, d'ailleurs.
Qui fera pas la CAN. Non, on est d'accord. Mais...
Bien, Laurent.
Non, mais voilà, je me dis que j'aimerais pas être à sa place.
Et à noter également pour ce match.
Enfin, tout est relatif, mais pour ce problème-là. Que...
Alors, Courbis se disait avant ce match, Gourcuff fait deux bons matchs dans l'année, c'est contre nous.
C'est vérifié aussi contre l'OM au match aller. Ou
ouais, bah, ils en fait trois lors de.
Ouais, trois matchs.
En tout cas, belle équipe.
C'est cher, le match pour Lyon.
Par contre, faites gaffe parce que la semaine prochaine, c'est quand même
OL. Il peut faire deux bons matchs contre l'OM cette année. Voilà. Parce qu'il y a. Marseille-Lyon de feu.
Ouais, et alors qui va valoir son pesant d'or.
Ouais, ses supporters de Paris vont être à fond pour Marseille.
Paris aura pas la tâche facile, ils vont jouer à Bordeaux.
Ah oui, c'est ça.
Sachant qu'ils ont eu un match de Coupe d'Europe dans la semaine.
En tout cas, Lyon continue sa marche en avant, rien à dire. Ils ont vraiment un profil de champion. Je ne sais pas s'ils vont réussir à tenir jusqu'au bout.
Ouais.
Mais ils ont plus que cette compétition-là en plus. Oui. Hein, il me semble, Lyon.
Alors que Paris est sur les quatre compétitions.
Quatre compètes, ouais. Coupe d'Italie, Coupe de France.
Et Marseille aussi, il n'y a que le championnat à jouer.
Oui, malheureusement.
Oui,
parce que comme disait Patrick la dernière fois, Bielsa avait fait esprit de perdre à Grenoble en Coupe de France. Voilà. Pour laisser reposer ses joueurs.
Ouais, je suis pas convaincu.
Je relais les propos de Patrick.
Qu'ils aient lâché s'ils avaient joué contre Bordeaux, Reims ou Bastia, n'importe quelle équipe de Ligue 1. Contre Grenoble, je suis pas certain qu'ils l'aient lâché.
Ah bon. Mais justement, on va parler des pronostics de Ligue des Champions avec mercredi Chelsea qui reçoit le Paris Saint-Germain. On a vu le retour de Thiago Motta, donc il y a beaucoup de choix pour Laurent Blanc, à part toujours Lucas qui est blessé.
Il y a le retour de Camara aussi.
Pas jouer, mais il y a son retour, c'est vrai. Chelsea, PSG, on rappelle un partout au match aller.
Chelsea qui a gagné péniblement 1-0 contre West Ham ce week-end.
Oui,
un match avec un but hors jeu déjà pour commencer.
Ouais, un gros Thibaut Courtois.
Et un très grand gardien qui a passé son week-end à Paris. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux.
L'espionnage, très certainement.
Ouais, non, je sais pas.
Ok, alors mon cher Laurent.
Oui.
Chelsea qui reçoit Paris, ça donne quoi?
Bon, je vais dire que ça va faire un 2-2. Je vois bien Paris se qualifier.
Ouais, je voulais dire 2-2 aussi, moi.
Moi, je ferais bien 1-1 et Chelsea au tir au but.
Oh, c'est pas beau, ça.
Faut reconnaître que Courtois, c'est quand même un grand gardien. Ouais, dans tous les sens du terme.
Mourinho a jamais perdu contre
un club français.
Un club français, ouais. Jamais perdu. Enfin, ou jamais été éliminé. Ouais.
Allez, 2-1 pour Paris.
Ouais,
voilà pour moi pas. Et Patrick m'a envoyé un message et il parie le 2-0 de Chelsea. Voilà,
okay.
On va voir ce que ça donne. Il a changé complètement d'avis par rapport à il y a deux semaines, mais bon, voilà, c'est comme ça. Championnat du monde, allez, une info alors je te laisse dire à la ville, Laurent.
C'est à Kontiolahti en Finlande.
Voilà, avec Marie Dorin Habert qui a médaille d'or après le sprint ce samedi, la Française qui a survolé la poursuite dimanche. Donc bravo à elle.
Alors, petite anecdote, je ne sais pas si vous avez entendu, pour Marie Dorin Habert, c'est qu'elle a accouché il y a 6 mois. Et c'est une jeune maman, donc c'est très rare de revenir très bon niveau. Bravo à Marie.
Ouais. Bravo, ouais. Ouais. C'est pas facile.
Non, c'est une anecdote quand même.
Six mois, c'est super rapide pour être champion du monde.
Ça se voit pas, je veux dire, elle a récupéré. Elle a bien récupéré ça.
Ouais, bah, comme quoi, le ski, hein, tu sais.
Le ski, tu récupères.
Hein. Tu récupères bien.
Tu sais ce qu'il te reste à faire, Laurent.
Ouais.
Le français Johan Diniz.
Du ski, pas du whisky, hein. Attention, ne confondez pas.
Le français Johan Diniz a battu le record du monde du 20 km marche en 1h17 et 2 secondes ce dimanche en Arles, au championnat de France. Alors, il était déjà détenteur du record planétaire du 50 km en 3h32 minutes 33 secondes. Et donc, depuis 2014, le Français a amélioré l'ancienne marque du Russe, Vladimir Kanaikin, qu'il avait établi en 2007, qui était d'1h17 minutes 16 secondes. Et il a de à peu près 15 secondes, et il a battu ce record. Bravo à lui, hein, Johan Diniz.
Wow.
Éternel marcheur, je sais pas quel âge il a.
Il est pas si vieux que ça finalement. Il doit avoir, je crois qu'il a moins de 40 ans.
Ah ouais, ah ben il est jeune alors. Ouais.
Il me semble bien.
Oui, enfin, 20 km à 40 ans, tu les sens.
C'est un peu comme le marathon, c'est des disciplines où en fait c'est avec l'âge que
tu gagnes de l'endurance.
Paradoxalement. les marathons.
Pas encore assez vieux, a priori.
Voilà, c'est ça. Tu sais, les marathoniens, il y a beaucoup de marathoniens qui sont relativement âgés par rapport à d'autres disciplines.
Mais sans parler des vrais sportifs, ne serait-ce que des sportifs du dimanche, des gens qui font du, ne serait-ce que le marathonman, arrivés à la quarantaine, peut-être, bon, s'entraînent plus sérieusement aussi. Et moi, je connais des footeux qui n'étaient pas spécialement des spécialistes de la course, qui arrivent à 40 balais à prendre plaisir et à améliorer leur temps d'il y a 10 ans. Ouais, quoi.
On va s'y mettre, hein, Laurent.
Ouais.
C'est-à-dire que le dimanche matin, t'es en moins mauvaise étape, peut-être.
Ouais, c'est ça.
C'est peut-être ça. Allez, dernière info en tennis. Après sa probante victoire contre l'Allemagne 3-2 à Francfort, la France retrouve de la sérénité. En quart de finale, les Bleus se déplaceront en Grande-Bretagne en juillet prochain. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ce tour de
non, de j'ai tennis. Pas suivi. J'ai juste suivi la bourde d'Andy Murray à l'issue de ce tour de qualif.
Ah, j'ai pas vu.
Qui a expliqué que au moment de quand ils ont gagné, ils étaient tous ensemble, toute l'équipe, et qui a expliqué que il a dit, je suis désolé, je dois partir parce que j'ai un autre tournoi, mais mon coéquipier, alors, je me souviens plus son nom. Il va peut-être rester. Il a fait des très jolies rencontres. Et l'autre qui a dit après, oui. Alors bon, ben, je vous fais souhaiter. Dire bonjour à ma fiancée, tout va bien, ça va mon amour, ça se passe bien, on se revoit bientôt. Voilà. Je pense qu'il y a une petite bourde de Andy Murray.
Oui, de toute façon, on les connaît pas, les autres Anglais, apparemment.
Non, on les connaît pas vraiment. Je t'avoue que j'ai pas du tout.
On a une possibilité de gagner, hein, contre.
Oui, oui, bien sûr. Bah, après, faut se méfier d'Andy Murray, qui est capable à lui tout seul de marquer les trois points s'il fait le double.
Il a fait le double là, non, c'est pas.
J'ai pas suivi.
Aucune idée. D'accord. Toi, t'as pas vu de match de tennis.
Non, j'ai juste vu quelques points, c'est tout.
On rappellera qu'Andy Murray est écossais, hein, donc déjà, si les Anglais ont besoin des Écossais pour se qualifier.
Ouais.
Et ouais.
On aura tout vu.
Ok, les gars, merci beaucoup. On a réussi à tenir.
On est même en avance.
On est même en avance pour une fois, de 5 minutes.
Laurent, va nous chanter une chanson.
Voilà. T'as 5 minutes d'antenne, Laurent, tu peux dire ce que tu veux. Ouais. Vas-y.
Ben, écoutez, merci de nous écouter. Je passe le bonjour à un auditeur que j'ai croisé ce matin, il se reconnaîtra. Et c'est Daniel. Et puis voilà, il faut revenir la semaine prochaine. On aura un super. Superbe émission prévue la semaine prochaine aussi.
Ah oui?
Ouais.
On aura un invité?
On aura Patrick Le Retour.
Ah oui.
Et il est chaud,
il est chaud. Il est chaud, patate. Ouais. Il est chaud comme une baraque à frites.
Il sera reposé, il sera en pleine forme.
Si l'OM bat à Lyon, alors là, je vous dis, il sera euphorique.
Alors, si l'OM bat Lyon, il y a des chances que Patrick ne vienne pas, ou alors dans un état que je n'ose imaginer.
C'est au Vélodrome?
Oui. C'est au Vélodrome.
Allez, on est fou. On va pronostiquer ce match aussi. Allez, on a un peu de temps.
Alors, moi, je suis embêté parce qu'en général, Lyon vient gagner à Marseille ces dernières années. Mais alors là, cette année, ça va être la boucherie. Je vous dis 3-0 pour Marseille. 3-0, ouais.
C'est beau, ça.
Ah ouais.
Moi, je dirais 1-1 et victoire du PSG qui passe en premier.
Ouais, moi, je dis 2-2 et victoire du PSG qui passe en premier.
Quoi ? Et Montpellier ?
Quoi, Montpellier ?
Ils font quoi la semaine prochaine ?
Je sais pas, ils vont où ? Je sais même pas où ils vont, moi.
Bah,
moi, depuis le 5-1, là, je regarde pas, j'attends.
Ça y est, t'as rendu les fagnons, les maillots.
J'ai tout rendu.
Alors, les supporters de Lyon, maintenant.
Ouais. Alors, pour nos auditeurs qui ne le savent pas, Ludovic, très souvent, au sortir de la douche, revêt un magnifique peignoir du Montpellier Hérault.
C'est le fils caché de Nicolas Hémézy.
Exactement.
Mmh. C'est ça, exactement. C'est ma mère, Nicolas.
C'est ça.
Allez, ciao,
c'est
les
le
gars.
Clown.
Allez, ciao, à bientôt.
Salut.
Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Supermarket.